Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Émilie Chaudet.
Aujourd'hui, vous vous penchez sur les dossiers socio-économiques saillants au Maroc en cette période d'élections législatives.
Voilà, c'était vendredi dernier, on va en parler avec notre invité Mohamed Tozzi. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Hassan II de Casablanca, vous êtes également enseignant à Sciences Po Aix-en-Provence. Alors donc vendredi des législatives, les résultats ont été vite connus d'ailleurs, renforcement des islamistes. Alors on va voir peut-être les thèmes de campagne, ce qu'ont fait d'ailleurs les islamistes entre 2011 et 2016, la précédente législature, celle qui se termine. Alors il y a une participation de 43%, vous allez nous dire comment la comprendre. Qu'est-ce qu'on entend peut-être par les islamistes au Maroc, en quoi est-ce qu'il diffère d'autres mouvements ou dans la région ou dans l'ensemble du bassin méditerranéen? Quelles ont été leurs réussites et leurs échecs depuis 2011? Et puis il y a quand même de grands dossiers comme partout ailleurs, mais il y a de grands dossiers, de grandes priorités politiques, économiques, sociales au Maroc. On essaiera d'en dégager quelques-unes. Alors peut-être on commence par la victoire. Est-ce qu'elle était attendue?
Oui, elle était prévisible parce que d'abord ils ont fait une très bonne campagne. Et paradoxalement, 5 ans d'exercice du pouvoir, même si c'est un exercice à la marge, parce que l'essentiel des prérogatives sont constitutionnellement aux mains de la monarchie, ils n'ont pas été usés par les 5 années de pouvoir. Donc ils ont gardé une certaine popularité.
Qu'est-ce qu'ils ont fait d'ailleurs, si j'ose dire, en négatif et en positif?
Alors d'abord, ils dirigeaient un gouvernement de coalition fait de 4 partis, dont le parti, l'ex-parti communiste et 2 partis libéraux. Qui avait des ministères quand même importants, les partis libéraux. Donc ils ont poursuivi un peu les réformes qui étaient déjà initiées par les gouvernements précédents, notamment le gouvernement technocratique de Driss Giotto. Mais ils ont fait des choses plutôt spectaculaires à la marge. D'abord, au niveau de la politique sociale, ils ont réinventer un certain nombre de catégories sociales, notamment les femmes veuves ou les femmes qui ont des problèmes pour élever leurs enfants. Donc ils ont ciblé cette catégorie avec des allocations directement cheminées vers ces gens-là. Les étudiants aussi. Par contre, au niveau de la politique économique, ils étaient dans l'orthodoxie déjà définie à la fois par la Banque mondiale et par le Fonds monétaire international. Donc ils s'inscrivent dans une perspective très néolibérale pour l'entreprise privée, la propriété privée, une certaine gestion de l'inégalité, non pas par la fiscalité, mais par la bienfaisance. C'est un peu donc qu'on est dans une sorte d'orientation islamiste globale.
Un caractère essentiellement social, apparemment.
Il y a des caractère social, mais en arrière-fond aussi, il y avait... Si vous voulez, ils ont pu définir ce qu'on peut appeler l'ère du temps, c'est-à-dire un ère du temps conservateur, c'est-à-dire ce que c'est que le référentiel de la société. Vous savez que la société marocaine est partagée entre, j'allais dire, un vécu plutôt très ouvert et un référentiel qui est plutôt conservateur. Donc la norme sous les auspices des islamistes penche justement vers un conservatisme social, notamment au niveau de la présence massive ou forte de la religion comme marqueur social, notamment au niveau du port des vêtements, au niveau des rapports sociaux.
Et puis le roi commandeur des croyants.
Même si le roi, lui, a le monopole
religieuse.
Ouais, même si le roi a le monopole, mais disons dans l'interprétation de ce que c'est que l'islam marocain, au sein d'un gouvernement ou sous un gouvernement islamiste, c'est plutôt l'option conservatrice qui l'emporte.
Est-ce qu'il faut faire un sort au taux de participation? Je vois 43%. C'est beaucoup, c'est peu, c'est habituel?
C'est habituel. Donc, sur les derniers scrutins, ça a varié justement 37 et 50%. Donc, c'est pas quelque chose d'inhabituel. On peut l'interpréter de plusieurs façons. D'abord, il y a entre les gens qui sont inscrits et les gens qui votent, il y a toujours un décalage. Il y a la nature aussi du vote lui-même qui est assez compliquée parce qu'il y a une liste nationale et des listes locales. Donc, même si on vote à partir
on ne vote qu'une seule fois.
Qu'une seule fois pour les deux listes. Et il y a aussi le fait que le scrutin n'a pas trop mobilisé les jeunes. et la classe moyenne.
Voilà. Alors, je voulais vous poser la question justement pour les islamistes, puisque c'est d'eux qu'il s'agit. Alors, essentiellement, est-ce qu'on sait quelle est leur, sociologiquement, quelle est leur clientèle, entre guillemets, qui vote pour eux?
Alors, jusqu'à.
Dans l'éventail de la population.
Disons, dans les premières élections, durant les premières élections, donc, il y a 5 ans, c'était plutôt la classe moyenne, ce qu'on peut appeler la classe moyenne pieuse, au sein des grandes villes. Donc, la campagne ne vote pas. Mais, grâce un peu à la popularité de leur leader, parce que c'est le leader Abdelilah Ben Kirane, a fait une vraie performance, que ce soit au niveau de sa présence médiatique, que sa présence tout simplement populaire. Donc c'est devenu un personnage relativement populaire. Et donc son audience s'est largement élargie, d'ailleurs ce qui correspond au score, il est passé de 107 à 125 sièges. Et la clientèle s'est élargie vers les classes, avec les classes populaires, même si on observe pour ces élections un certain recul au niveau de la clientèle bourgeoise, qui avait opté pour le PJD dans les dernières élections. Mais on n'a pas vraiment une sociologie fine de l'électorat. On sait que c'est les grandes villes qui votent PJD, notamment Casablanca, Tanger, Rabat.
Alors vous me disiez tout à l'heure, en préparant l'émission, qu'on vote moins dans les villes qu'à l'intérieur.
On vote beaucoup moins dans les villes qu'à l'intérieur, donc au niveau de la campagne. La mobilisation est beaucoup plus forte parce que à la campagne, elle se fait autour de notabilités et de personnes. Donc il y a un effort de mobilisation très, très, très important.
On sait pour qui on vote vraiment.
Oui, alors qu'en ville, c'est plutôt par rapport à... On vote pour des partis politiques. Donc la mobilisation est moins forte. Même si durant cette campagne et cette élection, dernière élection, je pense que l'apprentissage du mode électoral avance de façon relativement forte. On a assisté à une campagne très très forte, très très dure.
De bonne qualité.
De très bonne qualité, avec une appropriation des techniques de communication nouvelles qui est assez remarquable. Et durant la conclusion principale, c'est que le processus a été consolidé et que finalement, on commence à crédibiliser les élections comme le seul moyen d'accéder à la gestion des affaires publiques.
Alors juste d'un mot, parce que l'émission touche à sa fin, s'il y avait deux colonnes comme ça, ou une colonne simplement, mais les grandes priorités du pays, sur le plan interne évidemment, on n'a pas le temps de parler de la politique étrangère.
Non, sur le plan interne,
quelques dossiers clés.
Il y a trois priorités en fait qui attendent de nouveau. D'abord la réforme de l'éducation. Encore remise sur la table, donc parce que le taux de rentabilité de système éducatif qui quand même
et puis l'alphabétisation
bouffe une partie du PIB qui est relativement pauvre, qui n'est plus extensible, et donc il faut améliorer la performance du système, et donc il y a une réforme sur la table du gouvernement. La deuxième chose, c'est la croissance, parce que le Maroc a connu une décennie avec une croissance en moyenne de 5%, là il est à 1,5, et donc ça ne peut pas il y a urgence pour redynamiser la croissance. Et le troisième élément, c'est il est sur la question des libertés individuelles et des conflits des valeurs entre, une orientation plutôt conservatrice et puritaine qui est portée par le PJD et une dynamique sociale qui est vers l'ouverture.
Qui est plus souterraine et qui a plus de mal à s'exprimer ou non?
Elle s'exprime. L'une des conclusions de ces élections, c'est qu'il y a quand même une polarisation entre deux options, d'un Maroc plutôt conservateur ou d'un Maroc plutôt ouvert sur d'autres cultures et d'autres, et sur une meilleure protection des libertés individuelles. Ça ne veut pas dire que le PJ n'est pas pour ça, mais disons, c'est l'élection définit pour les 5 prochaines années quand même un air du temps plutôt conservateur.
Conservateur également, si j'ai bien compris, sur le plan économique aussi.
Oui, sur le plan économique, là, si les orientations majeures sont prédéfinies, et le gouvernement agit dedans, il ne redéfinit pas des orientations, il est amené à amener plus d'efficacité dans la gestion des affaires publiques.
Voilà, mais écoutez, un grand merci de cette analyse. Donc Mohamed Tozzi, professeur de sciences politiques à l'université Hassan II de Casablanca et enseignant à Sciences Po Aix, et puis franceculture.fr pour écouter l'émission, pour la télécharger. Demain, d'ailleurs, c'est un thème pour une fois
transversal,
qui n'a pas l'air du tout de relations internationales, mais si
vous parlez du tourisme, Thierry,
voilà, qui concerne d'ailleurs aussi un pays comme le Maroc, entre autres, tourisme, le poids et les aléas du tourisme dans les relations internationales. Notre invité sera Christian Giraud.
À demain, Thierry Garcin.